Bonsoir et bienvenue, c'est toujours le festival Ondes de Choc de Radio Canus sur la place Mazagran en direct dans à la Guillotière.
Et maintenant... Et alors, ceux qui prennent l'antenne maintenant, c'est nous, on n'est pas des cadeaux, c'est une émission transpédagogique féministe qui passe une fois sur deux le vendredi de 17h à 18h, du coup sur Radio Canus. Et du coup là, pendant la prochaine demi-heure, on va parler du harcèlement sexuel. Alors on a avec nous trois militantes du planning familial qui viennent d'un rassemblement pour des modifications de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel. Alors j'ai envie de vous demander, c'était comment le rassemblement ?
Ben, le rassemblement, c'était... Il n'y avait pas énormément de monde, mais c'était déjà pas mal d'être présente sur la place, de montrer que... Il y avait un problème par rapport à la loi sur le harcèlement qui avait été abrogée et qu'aujourd'hui, en ce moment, une femme victime de harcèlement qui souhaite porter plainte, aujourd'hui, elle a des grosses difficultés pour le faire puisqu'il y a plus, il y a un vide juridique. Donc on voulait alerter la population par rapport à ça et puis en même temps demander d'autres choses, faire de la sensibilisation, etc. Donc on a distribué à peu près 1 000 000 de tracts. On avait un stand d'information, on a papoté avec pas mal de gens, on a fait pas mal d'infos et c'était le but de ce rassemblement.
Ouais, on avait aussi des brochures parce que c'était aussi plus largement du coup par rapport aux violences sexistes et on avait des brochures comme Non c'est non de Zellinger et des choses comme ça pour distribuer et informer là-dessus.
Okay. Et alors j'ai envie de vous demander, c'est quoi cette histoire de vide juridique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'il y a un vide juridique sur le harcèlement sexuel maintenant en France ?
Alors, c'est un peu compliqué, mais pour résumer, il y avait une loi sur le harcèlement sexuel qui existe depuis 1992, donc elle a été modifiée plusieurs fois. Et en fait, les dernières modifications en 2002, elles n'étaient pas satisfaisantes parce que la définition de harcèlement n'existait pas dans la loi. Donc, il était très difficile d'aboutir à des condamnations parce que les juges disaient « oui, mais ça, on ne sait pas vraiment si c'est du harcèlement ou pas, donc on ne condamne pas ». En gros, il y avait à peu près une quarantaine, cinquantaine de condamnations par an, ce qui est un chiffre ridicule quand on sait qu'il y a environ une femme sur trois qui est concernée par le harcèlement sexuel dans sa vie. Donc les associations féministes militaient pour une nouvelle loi. Et au final, en fait, c'est un macho qui s'appelle Gérard Ducret et qui a été ministre dans les années 70 et qui est aujourd'hui conseiller municipal à Villefranche, qui a été condamné pour harcèlement sexuel en 2010. Et qui, en fait, a posé au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité, en fait. Donc c'est une procédure pour dire « j'ai été condamnée, mais la loi n'est pas conforme à la Constitution, donc je demande l'abrogation de la loi et l'annulation de ma condamnation ». Donc M. Ducret était donc devant ses amis du Conseil constitutionnel, parce qu'il y avait des anciens ministres qui étaient ministres avec lui, qui siégeaient à ce même Conseil constitutionnel. Donc il a obtenu gain de cause. Et depuis le 4 mai, donc la loi sur le harcèlement sexuel est abrogée, ce qui veut dire que toutes les personnes qui jusque-là ont porté plainte pour harcèlement sexuel mais qui n'ont pas obtenu condamnation encore parce que les procédures sont en cours, se retrouvent complètement démunies et avec leur plainte classée sans suite. Donc elles doivent continuer d'aller au travail avec éventuellement leur harceleur au singulier ou au pluriel sur leur lieu de travail et elles sont complètement laissées sans recours.
Okay. Et alors, maintenant il y a un vide juridique, c'est-à-dire que l'ancienne loi est abrogée. Depuis, il y a une mobilisation en fait, en réaction à l'abrogation. Et il y a eu notamment un nouveau projet, le projet d'une nouvelle loi. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce que ça change, cette loi, et qu'est-ce qu'elle pourrait changer ?
Alors, suite à la pression des associations et des féministes qui se sont mobilisées au mois de mai et juin, le nouveau gouvernement, donc par l'intermédiaire de Christine Taubira et de Najat Vallaud-Belkacem, a présenté un projet de loi, en fait, le 12 ou le 14 juin. Et ce projet de loi, en fait, il pose une définition plus précise du harcèlement sexuel, mais il pose aussi des problèmes, en fait. Donc on est content d'avoir une vraie définition du harcèlement sexuel, mais en fait, le problème, c'est que il y a deux formes de harcèlement qui sont distinctes. Une première forme qui est le harcèlement par répétition, on va dire. Donc c'est le fait de ne pas vraiment chercher à obtenir des faveurs sexuelles, mais de répéter constamment « Alors ma jolie, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Ce genre de choses. Donc ça, c'est la première forme. Et la deuxième forme, c'est le harcèlement par chantage. Donc par exemple, lors d'un entretien d'embauche, c'est une pipe, sinon pas d'embauche. Donc en fait, les deux sont distincts dans, dans le projet de loi, avec deux types de condamnations différentes. La première, la première définition de harcèlement sexuel, donc par répétition, est condamnée à un an maximum d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et la deuxième à deux ans d'emprisonnement maximum et 30 000 euros d'amende. Donc ce qu'on réclamait, c'était déjà pas forcément normal de hiérarchiser en fait, ces deux formes de harcèlement, parce qu'elles peuvent être aussi humiliantes et dégradantes pour les personnes qui en sont victimes. Et puis, en fait, l'autre problème principal, c'était que donc, ces peines que j'ai énoncées peuvent être aggravées en cas de circonstances aggravantes. Donc, par exemple, quand c'est sur un mineur, enfin une mineure de moins de 15 ans, ou quand c'est dans un cadre de hiérarchie. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende. Mais en fait, ça pose complètement la question de l'échelle des valeurs dans la hiérarchie des peines, parce que tout ça, ça reste inférieur à, aux moindres condamnations pour vol simple, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est dans un contexte d'escalade de la répression incroyable. Un vol de voiture, un vol de scooter, n'importe quoi, c'est énormément puni. Il y a eu la loi sur la sécurité intérieure de 2003 qui condamne le racolage passif avec des peines incroyables. Et à côté de ça, le seul endroit où il n'y a pas d'inflation juridique, où il n'y a pas d'inflation de la répression, c'est sur le harcèlement sexuel. Donc on trouvait que c'était pas normal et qu'on devait donc souligner en fait ce problème juridique. Et mettre en avant en fait l'idée qu'il fallait aller bien au-delà en fait de ça en termes de condamnation et de réflexion en fait sur la place du harcèlement sexuel dans la société, avec notamment la mise en place de réelles formations des personnels de police, de justice et de santé qui accueillent les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel et qui jusqu'à présent ont plutôt tendance à décourager les plaintes, à pas vraiment savoir comment les accueillir et qui du coup devraient être formés en conséquence.
C'est quelque chose qui était intéressant et fondamental dans le rassemblement qu'on appelait. C'était de dire qu'il y a d'un côté, il faut qu'il y ait une loi qui protège les personnes, mais il faut aussi, au-delà de l'aspect répressif, ça n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas non plus des procédures d'accompagnement, de la prévention, une éducation non sexiste, de la formation des professionnels, une obligation pour les entreprises aussi d'informer les personnes sur la loi, de les protéger aussi. Parce qu'au quotidien, pourquoi il y a si peu de plaintes, même avant, même quand il y avait une loi, c'est que c'est souvent la loi du silence, on banalise le harcèlement sexuel, on a tendance à pénaliser les victimes, à ramener la faute aux victimes, etc. C'est le cas encore aujourd'hui pour toutes les formes de violences sexuelles. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un vrai travail de prévention et de sensibilisation de la population.
Alors, moi, j'ai une question, c'est au-delà du projet de loi et des lois, là, comment ça marche, les condamnations, effectivement, celles qui sont arrivées? Parce que quand j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai plutôt vu que c'était principalement des hommes qui étaient les juges et que du coup, en fait, les jugements, ils étaient souvent hyper à côté de la plaque et il y avait des jurisprudences qui se contredisaient vachement, et notamment, il y a quand même beaucoup de juges qui se retrouvent à décider avec leur propre construction macho qu'est-ce qui est de l'ordre de la séduction et qu'est-ce qui est de l'ordre du harcèlement sexuel.
Alors là-dessus, un des problèmes du projet de loi actuel, c'est aussi la qualification des faits, en fait. Les victimes devront prouver l'imposition du harcèlement, alors qu'on sait très bien que dans la société dans laquelle on vit, les relations de travail sont toujours hiérarchisées et ont toujours des dimensions d'ordre et de contraintes, en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin pour un harceleur d'expliciter ça pour que ça soit du harcèlement sexuel et que ça soit humiliant, dégradant, etc. Donc c'est vrai que ça repose toute la question de ce qu'expliquait Valérie, c'est-à-dire de mettre en place en amont en fait une véritable politique de lutte contre le sexisme et contre les effets de hiérarchie dans les rapports sociaux de sexe.
C'est pour ça que le côté formation, c'est aussi tout le personnel de justice. Il y a en amont quand il y a réception de la plainte, mais aussi au niveau de la justice, pour que justement connaître c'est quoi être une victime, quel retentissement psychologique, pourquoi être sans arrêt confronté à des ce qui pour certains est vécu comme des petites remarques anodines, en fait, peut être tout à fait destructeur, en fait. Donc voilà, comment faire évoluer ça, en fait, pour prendre en compte cette dimension du harcèlement dans toute sa complexité.
On fait une petite pause musicale et on revient juste après. Thank you. alors on, du coup on est de retour. Alors moi j'ai, du coup j'ai une autre question, c'est est-ce que le harcèlement sexuel dans la loi qui est prévue et qui existait avant, c'est que au travail? Parce que j'ai l'impression que j'imagine bien ce genre de situation, mais est-ce que dans la loi il y a aussi d'autres situations et est-ce que vous en tant que militante vous avez d'autres situations qui vous parviennent aux oreilles qu'au travail?
Alors oui, dans la loi en fait on a beaucoup parlé en fait du harcèlement au travail parce que c'est des situations dans lesquelles on est relativement captif hein, en fait, enfin captif et captive. Mais du coup non, il n'y a pas que des dispositions ayant trait au travail. Après au planning, on n'est pas là en tant que salarié du planning et qui faisons de l'écoute, etc. Mais on peut conseiller à toutes les femmes, quelle que soit la sphère dans laquelle elles ont l'impression de subir du harcèlement sexuel, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit au niveau associatif, militant, etc., de contacter d'autres associations qui sont plus en lien avec ces questions-là, comme Femmes Solidaires par exemple.
Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est vrai que c'est des situations qu'on trouve surtout dans le milieu du travail, mais que l'espace, dans l'espace public, dans un milieu même amical, dans des associations, c'est vrai que ça, c'est susceptible d'exister partout. Et c'est parfois pas facile de porter plainte dans ces situations-là. Donc au niveau des associations, il y a effectivement, il y a Femmes Solidaires. Au planning familial, on peut écouter, on peut essayer d'orienter. Il y a des structures qui ont des juristes aussi qui peuvent essayer de creuser un petit peu. Une fois qu'on aura une loi déjà un peu plus sûre, une loi votée, qui pourront aider aussi. Donc voilà, on peut orienter les personnes. Et l'important aussi, surtout, c'est au-delà de la plainte, parce qu'il y a des personnes qui, on sait bien, dans les situations de violence, il y a des personnes qui n'osent pas porter plainte, qui ne souhaitent pas porter plainte. C'est aussi de pouvoir parler, de rompre le silence, et aussi de compter sur la solidarité et de jouer sur la solidarité.
Donc là, par exemple, sur la solidarité, à la fin du mois de mai, pendant le week-end de l'Ascension, il y a un exemple assez intéressant de solidarité qui s'est manifesté à Disney, donc à Disney à Paris, où en fait, une personne travaillant à Disney avait porté plainte contre un de ses supérieurs hiérarchiques pour harcèlement sexuel. La loi ayant été abrogée, etc., la personne coupable, enfin présumée coupable, en tout cas accusée de harcèlement sexuel, a été réintégrée dans son poste. Et du coup, il y a eu pendant deux jours une grève de solidarité en fait qui a été menée par ses collègues pour bien montrer à la personne au supérieur hiérarchique qu'il n'était pas le bienvenu à Disney. Donc voilà un exemple de solidarité active montré par les salariés qui étaient en soutien de la personne victime.
Du coup, on a un petit peu parlé, mais il y a la difficulté à la fois de qu'il existe une loi et qu'on puisse que la loi permette la reconnaissance juridique de le fait que une personne peut être victime de harcèlement sexuel, et en même temps on sait que tout se joue pas dans la loi ou par la loi, qu'il y a les limites en fait, ou même la démarche de se considérer comme victime, aller porter plainte, et les deux doivent se jouer ensemble un peu. Et du coup, par exemple, déjà maintenant, alors dans cette situation de vide juridique là où il va peut-être y avoir une nouvelle loi, mais pour l'instant il n'y a rien, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en l'absence de loi? Est-ce qu'il y a d'autres recours possibles, ou est-ce qu'il y a d'autres...
Alors déjà, il y a plusieurs outils en fait qui sont des outils qui sont applicables à beaucoup de situations de souffrance, pas seulement en cas de harcèlement sexuel, mais c'est l'idée en fait de tenir un journal en fait, de relever les faits de manière la plus précise possible avec les dates, les circonstances, etc. L'idée de chercher des témoins, des alliés qui vont essayer de manifester leur soutien et leur solidarité si elles sont témoins de situations de violence. Consulter donc la médecine du travail si c'est au travail, consulter des psychologues, essayer d'en parler, surtout ne pas s'isoler, essayer de contacter des syndicats, des associations et la police, même déposer des mains courantes, c'est toujours possible, même si on ne peut pas déposer plainte. Face à l'agresseur ou aux agresseurs, poser ses limites, y compris physiquement, dire ce qui ne passe pas en formulant l'existence d'un problème, et de manière plus général, essayer en fait, en tant que femme par exemple, de manifester notre solidarité, notre soutien à toutes les personnes qui expriment leur ras-le-bol de comportements en fait sexistes et problématiques.
Et alors peut-être, du coup, ce soutien, comment... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des conseils ou des choses qu'on peut faire quand on est en situation, ou quand il y a quelqu'un autour de nous qui se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce que ça peut être, le soutien, concrètement? Est-ce que vous avez des pistes un peu ou des...
Je pense, comme pour toute situation de violence, c'est d'abord une écoute sans jugement, c'est croire la personne, ne pas la mettre en doute, ne pas la culpabiliser. Souvent, on le fait de façon maladroite, mais parfois on dit, pourquoi tu l'as pas mis une baffe? Comme si c'était évident. On comprend pas toujours que les personnes peuvent avoir du mal à s'affirmer, du mal à dire non, du mal à passer à la violence physique aussi, parce que parfois il y a aussi des risques à passer à la violence physique. Et les agresseurs, ils le savent, parce qu'ils jouent sur une ambiance de menaces, et d'autant plus quand il y a une pression hiérarchique. Donc voilà, c'est être à l'écoute et puis essayer d'orienter les personnes sur des associations pour qu'elles puissent parler. Et déjà, c'est important d'être confirmé dans le fait que ce qu'on vit, c'est pas normal, et c'est déjà un premier pas. Et après, c'est aux personnes de voir si elles veulent porter plainte, ou si parfois ça peut être, s'il y a un syndicat dans l'entreprise, ça peut être aussi le syndicat qui fait pression de manière diverse, ça peut être dénoncer publiquement la personne. Enfin, au-delà de la plainte, c'est vrai qu'il y a d'autres, d'autres mesures à faire. Et la solidarité, c'est déjà être là. Souvent, dans une entreprise, quand il y a une personne qui harcèle, elle a harcelé d'autres personnes. Et les victimes, elles ne se sont pas toujours parlé entre elles. Et des fois, le fait d'en parler, ça libère un peu des choses. Et quand on est plusieurs, ça permet aussi on est plus forte pour se battre.
Et un autre point aussi pour manifester sa solidarité, c'est aussi de ne pas participer en fait à construire cette ambiance d'oppression sexiste. Et même dans les cas où, par exemple, on est témoin de blagues un peu douteuses, on n'est pas obligé de rire, même si c'est notre supérieur hiérarchique qui les fait. On n'est pas obligé de participer justement à des formes de complicité en fait avec un climat malsain.
Et du coup, nous, dans notre action au quotidien, on s'inscrit un petit peu dans une idée de prévention des violences de genre en général. Hein, au planning familial, on va dans les collèges, les lycées. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on essaie d'aborder. C'est comment la notion du consentement, la notion des normes masculin-féminin aussi, comment dans une ambiance de boulot, par exemple, on peut être super lourd si on fait des remarques sur comment telle personne est habillée parce qu'elle n'est pas conforme aux normes de genre, sur les questions d'homophobie, lesbophobie, transphobie, etc. Donc on essaye de faire d'éducation par rapport à ça, mais c'est pour l'instant, on touche à peu près, nous sur Lyon, à peu près 2500 personnes par an, mais c'est vrai qu'il y aurait un boulot énorme à faire, et ce boulot, il doit se faire avec des jeunes, mais ce serait aussi à faire au niveau des syndicats, au niveau des entreprises, à différents niveaux en fait. Donc c'est à la fois prévenir les violences et s'adresser aux potentiels agresseurs, et aussi travailler aussi avec, notamment avec les filles qui apprennent pas toujours dans leur éducation à la famille, par exemple, ou leur éducation à l'intérieur de l'école, elles apprennent pas toujours à dire non, elles apprennent pas toujours à s'affirmer, elles apprennent à être bien polies des fois. Et en se battant contre ce modèle-là, en apprenant à s'affirmer, c'est vrai qu'on peut être parfois plus forte dans ces situations de violence et de harcèlement.
Pour revenir sur le plan législatif, est-ce que vous allez faire un autre rassemblement ou comment la lutte continue là pour vous ?
Pour l'instant, on essaye de suivre l'actualité, c'est-à-dire en ce moment, il y a déjà eu des nouvelles propositions d'amendements pour la loi. Donc on va suivre un petit peu les discussions parlementaires en fait et voir ce qui se joue. Et puis en fonction de ça, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'on refait des rassemblements, des pétitions, des manifs ?
Peut-être si on veut participer, comment est-ce qu'on peut être au courant de ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a un site ou un...
Nous, au planning, il y a un site du planning, il y a aussi notre blog qui s'appelle Super Féministe, et sur lequel il y a pas mal d'infos sur toutes ces questions-là. Et puis, on peut contacter le planning et puis être sur une liste un petit peu de diffusion où on diffuse un peu les infos, les actions en cours. Alors, c'est le harcèlement, mais ça peut être aussi l'IVG en ce moment. Enfin, il y a toujours des actualités brûlantes sur ce terrain-là. Et puis pour ceux et celles qui veulent savoir un tout petit peu plus, on a mis le track là d'aujourd'hui pour le rassemblement. Je l'ai mis sur la table de presse. Si les gens veulent regarder, ça peut être intéressant.
Et dernier point, pour les gens qui souhaiteraient plus d'informations sur les situations de harcèlement sexuel, mais pas seulement, il y a un site qui est tenu par des juristes et qui est assez bien fait, qui s'appelle souffrance-et-travail.com. Qui regroupe un certain nombre de conseils, d'avocats et de professionnels en fait, sur quelles procédures on peut essayer d'engager dans des cas de violence au travail en fait, et de risques psychosociaux au travail.
Et il y a aussi le site de l'AVFT qui est l'association contre les violences
contre les violences faites aux femmes au travail.
Et donc, cette association a fait des propositions par rapport à la loi et fait des communiqués régulièrement assez précis par rapport à cette loi et aux évolutions qui sont en cours.
J'ai envie de dire merci beaucoup d'être venu. Nous, on a un rassemblement à annoncer. C'est qu'il va y avoir un rassemblement contre la pénalisation des clients, des travailleurs et travailleuses du sexe. Ce rassemblement aura lieu le vendredi 6 juillet à 14h, place de l'Opéra. Et vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site de Cabiria, mais sur ce rassemblement, mais aussi plus de renseignements sur la lutte contre la pénalisation des clients sur le site du STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel. Et si vous avez quelque chose à annoncer aussi comme événement
On peut dire que le planning familial est une des seules assos féministes, des grosses assos féministes à avoir pris position contre cette loi de pénalisation des clients. Et il y a un communiqué de presse qui est sorti là en fin de semaine là-dessus. On vous invite aussi à aller le voir si ça vous intéresse. Et je pense qu'on participera.
On se voit là-bas et du coup on termine en musique. Merci beaucoup.
Bizarre cette manière qu'ils ont de nous demander de nous justifier, nous questionner sur la non-mixité, à croire que si on les suce pas,
on n'est pas leurs alliés.
Pour moi, la question est inversée,
j'en ai marre d'argumenter,
je n'ai rien à te prouver, l'insurrection et les pavés,
on en parlera quand t'auras ton diplôme d'éduxpé.
Je me fous totalement
de ta tolérance, de toi coco connard, je n'attends aucune reconnaissance.
Le lien de confiance est brisé, arrête de me saouler.
Pendant les hauts et courts,
c'est à moi que c'est adressé.
Salope d'état, grosse pute de syndicat.
C'est dans tes tracts qui a écrit ça. Mais bien sûr, rien à voir avec l'hétéropatriarcat. Aucune raison que je râle, que je fasse un caca. C'est des mots, tout ça,
n'en fais pas tout un drame.
Madame. Féministe, extrémiste,
à tendance nazi, comme tu dis, ouais.
Je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G.